Radio Barc, je rappelle que pour raison de défection de dernière minute, nous vous proposons aujourd'hui une rediffusion d'une émission récente avec Didier Mouly, maire de Narbonne et président du Grand Narbonne. Didier Mouly, on a fait le point sur pas mal de projets, notamment des projets d'urbanisme concernant la ville de Narbonne. Venons-en un petit peu plus à ce qui se passe sur l'agglomération, quoique, comme nous l'avons dit au début, très souvent il y a enchevêtrement ou il y a une co-responsabilité, donc il n'est pas toujours facile d'y voir très clair. Prenons l'exemple du Grand Castellou, alors ce domaine, anciennement un domaine viticole, qui doit devenir le siège du parc naturel de
Narbonne Méditerranée.
Voilà.
La Narbonnaise de la Méditerranée. Vous avez plusieurs chantiers qui aujourd'hui posent des questions à de nombreux habitants de notre territoire. Vous parlez du Grand Castellou, vous pourriez parler des anciennes résidences des Peupliers. On rattache le site à la commune, sans savoir qui est le propriétaire ou qui est le donneur d'ordre. On en parlait à la précédente partie, pour la caserne Roger. C'est sur la commune de Narbonne, mais le propriétaire, c'est l'État. Le Grand Castellou ou les Peupliers, c'est exactement pareil. Le Grand Castellou, le propriétaire, c'est le Conservatoire du Littoral. Cet établissement public de l'État qui protège tous nos rivages, quels qu'ils soient. Ce domaine a été acheté par le Conservatoire du Littoral il y a fort longtemps. Et aujourd'hui, dans le cadre d'un aménagement pédagogique et ludique, le conservatoire souhaite faire de gros investissements, de gros travaux. Autour de la table, il y a toutes les collectivités, tous les services de l'État, le conservatoire du littoral, la région, le département, le Grand Narbonne et la ville de Narbonne. Chacune des collectivités a une parcelle de compétences pour agir pour le compte du conservatoire du littoral. Il a été demandé à la ville de Narbonne d'assurer la maîtrise d'œuvre. Elle ne décide pas la ville. Elle travaille en coopération avec l'ensemble des intervenants autour de la table pour sortir un projet qui retienne l'attention de tout le monde. Le PNR fait partie de ce tour de table et fait partie de cette possibilité d'obtenir des fonds européens si cela devient la maison du parc. Pour que ça soit la maison du parc, il faut que le siège du PNR soit du parc national régional, soit dans ce Grand Castellou. C'est ce qui a été décidé et admis par l'ensemble des élus concernés. Puisqu'aujourd'hui, le PNR a son siège à Sigean, il l'avait eu précédemment à Narbonne, à mon plaisir. Cela va nous permettre d'avoir un financement partagé et de réaliser de gros travaux. Aujourd'hui, le permis de démolir de certains bâtiments a été donné, les démolitions ont eu lieu. Le permis de construire a été obtenu et le choix des entreprises est en train de se faire pour finaliser le début du chantier. Pour les peupliers, je déborde un petit peu, je voudrais m'excuser, mais le principe est le même. Le propriétaire, c'est Domicile Habitat. Les habitants ont dégradé le site, les habitants ne veulent plus y aller, et donc Domicia se retrouve propriétaire d'une résidence qui est devenue un boulet pour elle et qui demande à l'État, dans le cadre de ses projets dits projets en rue, de financer la démolition et la reconstruction. Entre ce qui a été prévu il y a plusieurs années en arrière et aujourd'hui, la vie d'une commune, l'urbanisation d'une commune a changé. Et s'il était prévu la démolition et la reconstruction d'immeubles collectifs, aujourd'hui, tant le bénéficiaire de logements sociaux que la commune ne veut plus des immeubles. On préfère des villas avec un espace permettant à tout un chacun de bénéficier d'un extérieur. Donc nous en sommes à la phase où la résidence des Peupliers a été démolie, et où il faut que l'État accepte qu'un nouveau projet immobilier soit réalisé par des villas. Je comprends les habitants qui, voyant cette terre abandonnée après la démolition, est occupée par des jeunes, par des déchets, et disent « faisons quelque chose ». Oui, oui. Mais l'ensemble des administrations qui tournent autour de la table pour pouvoir faire ce projet eh bien, elles sont dans un temps de réflexion, de préparation et de réalisation d'un projet.
Et Dieu sait si dans ces cas-là, le temps est long et c'est ce qui provoque les impatiences.
Exactement, mais je pense qu'il y aura un très beau projet par la suite, des villas et un parc urbain qui permettra à tout un chacun de trouver un endroit nouveau et agréable.
Alors ce qui est valable pour la ville est aussi valable pour l'agglomération, ses lenteurs, ses difficultés rencontrées. Venons-en à la zone, alors le pôle santé de Montredon, mais c'est aussi une zone d'activité qui est appelée Montredon, Névian d'ailleurs, qui est appelée à se développer dans les années futures. Aujourd'hui, il y a la clinique qui fonctionne avec donc une fréquentation assez importante. Il y a eu déjà une petite polémique sur le bus, sur la ligne de bus. Bon, on n'y revient pas puisque je ne pense pas que ça ait évolué à ce niveau-là. Il est question également aussi pour la circulation automobile, d'envisager une sortie sur l'autoroute sur la commune de Bizanet. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Montredon a aujourd'hui 4 zones d'activité, Plaine 1, Plaine 2, Castellas 1, Castellas 2 et Pôle Santé. Névian est un projet de zone d'activité qui va venir en complément de Montredon et qui sera situé sur la commune de Névian, en bordure de la 113 et allant jusqu'à la route qui mène à Ornaison.
Mais dans la continuité du pôle santé.
Dans la continuité du pôle santé. Pour l'instant, nous en sommes en discuter avec l'État sur les mesures de compensation au regard de la surface qui va être aménagée en zone d'activité. Il n'empêche que indépendamment de ce projet, la 113 est aujourd'hui très très encombrée puisque c'est une route à deux voies avec un pont de chemin de fer à franchir où il n'y a que deux voies. Un trafic routier composé de camions nombreux et de voitures avec un système et un sens pendulaire, on va vers la ville-centre et on part de la ville-centre en fin de journée avec des embouteillages que tout un chacun peut voir, non seulement sur la rocade entre la route de Carcassonne et la route de Perpignan, mais également des embouteillages tout au long de la 113 jusqu'après Montredon pour aller jusqu'à Lézignan. Aujourd'hui, la 113 a un flot de circulation tellement important qu'elle est encombrée tout au long de la journée, dès les premières heures du matin jusqu'aux heures un peu tardives. L'agglomération n'a rien pensé en créant cette zone d'activité. Nous sommes devant un vide total de la part des élus qui étaient en charge de l'agglomération jusqu'en 2020 de réfléchir, de penser et d'ouvrir un dossier sur la fluidité de la 113.
C'est-à-dire que Didier Mouly, en arrivant à la présidence de l'agglo, vous n'avez rien trouvé dans les cartons, si je puis dire.
Exactement. Ni dans les cartons, ni dans les tiroirs, ni sur les étagères. Il n'y a rien. Pas un début de réunion entre les différents élus ou services techniques des collectivités concernées. Pourquoi je dis des collectivités concernées ? Vous ne pouvez pas aujourd'hui envisager de rendre plus fluide la 113 si vous ne mettez pas l'État dans la boucle, la région pour obtenir quelques fonds européens, mais surtout le département qui est en charge de la 113 et le Grand Narbonne puisque c'est sur son territoire que cela se passe. Vous pouvez même éventuellement en profiter pour mettre autour de la table la commune et l'agglomération de Lézignan, la commune et l'agglomération de Carcassonne, puisque c'est le même axe qui nous relie et c'est les mêmes difficultés au niveau de la circulation que nous rencontrons. Je crois qu'il y a 18 000 véhicules qui passent au centre de Lézignan et qui créent des bouchons, plus les transports exceptionnels qui compliquent la circulation dans Lézignan. Donc, on comprend parfaitement que tout le monde doit se mettre autour de la table. À ce jour, seul le Grand Narbonne a demandé à la fois, par l'intermédiaire de monsieur le député, au ministre des Transports d'envisager peut-être un échangeur sur l'A61, l'axe Narbonne-Toulouse, mais également à la présidente du conseil départemental de venir autour de Natal pour travailler sur cette fluidité. On sait très bien que tout projet qui serait envisagé aujourd'hui ne se réalisera pas avant plusieurs années. Donc ouvrons un dossier, commençons à nous mettre autour de la table pour dire que faire et comment le financer. Aujourd'hui, seul l'État a répondu en disant « mettons en place une étude sur la faisabilité et la réalisation d'un échangeur sur l'A61 à hauteur de Montredon-Névian au droit de la départementale qui mène à Fonfrade et vers les citadelles du Vertige, c'est-à-dire les châteaux cathares. La grande difficulté, c'est de réunir au même moment tout le monde pour arriver à en discuter, pour dire quel est le pourcentage financier que vous comptez mettre dans cette étude. Nous en sommes à cette phase-là. Cette étude dira si effectivement on peut réaliser d'une manière profitable à tout le monde d'un échangeur sur l'A61. Mais on comprend qu'il faut qu'il y ait l'État, la région, parce qu'elle est concernée par l'organisation de ces transports sur tout son territoire, le département, puisqu'il va falloir réaliser en plus de l'échangeur l'aménagement de toute la distribution vers les autres routes, l'agglomération, et bien entendu la commune de Montredon, les communes de Pisané, en fonction de l'étude qui sera faite. Pour l'instant, nous sommes en train d'essayer de convaincre, à part l'État, Vinci Autoroutes et l'agglomération, de convaincre les autres collectivités de bien vouloir s'asseoir à la même table pour en discuter. Ce n'est peut-être pas une fin en soi de créer un échangeur, mais c'est une facilité permettant ainsi un accès à cette zone d'activité ou une sortie à cette zone d'activité, en tout cas à tout l'ouest de la Narbonnaise, de pouvoir avoir une fluidité de la circulation peut-être commencée. Ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un début à rendre plus fluide la circulation sur cet axe. Je prends l'exemple qui existe depuis les années 2000 et qui avait été mis en place par Michel Moynier, maire Nouveau-Narbonne, de Narbonne, en rendant plus avantageux la sortie entre l'est et le sud de la ville de Narbonne pour simplifier la traversée de la ville avec un tarif préférentiel.
Une sorte d'abonnement. Quoi.
C'est un abonnement qui s'appelle la ZAPET et qui permet à de nombreux habitants de pouvoir rallier un côté par rapport à l'autre sans tenir compte des embouteillages. Je pense aux médecins, aux infirmiers, à tous ceux qui font des tournées, qu'ils soient commerciaux ou pas dans des entreprises, ou même à des parents d'élèves qui, arrivant d'un côté de Coursans ou arrivant de l'autre de Périgueux-de-Mer ou de Montredon, vont traverser la ville pour amener leurs enfants à différents établissements. Cela fonctionne. Donc demain, si on a une sortie d'autoroute sur la 61 à hauteur de Bizané ou de Montredon, on pourra avoir peut-être le même aménagement facilitant l'accès à différentes zones.
Voilà, bien, écoutez, merci pour ces explications pour cette deuxième partie. C'est important sur, enfin pour l'avenir justement de cette zone. Et puis ce sont les questions que se posent tous les riverains, tous les habitants de ces communes.
Je vous prie m'excuser d'avoir été aussi long, mais j'espère que je n'ai pas lassé vos auditeurs.
Je pense que c'est indispensable et de toute façon on continue parce que des projets sur Montredon, il y en a encore d'autres. On marque une deuxième pause, Didier Mouly.
Avec plaisir.